y est, vous avez peut-être reconnu la musique. Voici le retour du magazine des déchaînés du football tous les lundis soirs en direct sur Radio Bonheur de 19h jusqu'à 20h30. Premier magazine de la 9e saison, hein, c'est ça, hein, du magazine des déchaînés du football. 9e saison qui démarre aujourd'hui. Voilà, on s'est quitté fin mai et on se retrouve fin août pour une nouvelle saison de foot avec nos clubs préférés, avec l'En Avant Guingamp, avec Lorient, avec Brest. On va retrouver aussi Saint-Brieuc et puis les autres club amateur Concarneau de Bretagne. Pendant toute cette nouvelle saison, les déchaînés du football, le magazine avec Pierre-Henri Dufay. Bonjour Pierre.
Bonjour Dominique, bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre et bonsoir à tous.
Alors, une saison qui a débuté il y a déjà quelques semaines. On en est déjà, je crois, à la 4e journée du championnat de Ligue 1, 6e journée du championnat de Ligue 2. Et pour les clubs que nous suivons avec l'intégralité des matchs diffusés à l'antenne, à savoir Guingamp, Lorient et Brest, on a des fortunes diverses, mais dans tous les cas, on n'est pas dans le haut du championnat. Alors, on est en difficulté un peu avec Brest, seulement 2 matchs nuls pour l'instant depuis le début du championnat sur 4 rencontres. Du côté de Lorient, ça va peut-être un petit peu mieux. C'est sans doute, le petit rayon de soleil de ce début de saison. Finalement, ça se passe pas trop mal pour les Merlus. Une seule défaite, 2 matchs nuls et une victoire. Et puis pour Guingamp, c'est moyen. Hein. Guingamp qui n'arrive toujours pas à gagner à domicile. Guingamp qui fait surtout des matchs nuls depuis le début de la saison.
4 en 6
journées. Ouais, beaucoup de matchs nuls. Une défaite, une victoire, mais 4 matchs nuls. Voilà, c'est encore trop juste pour prétendre à quoi que ce soit dans ce championnat de Ligue 2. Mais bon, ça va peut-être prendre le temps et la mayonnaise va peut-être finir par prendre. C'est ce qu'on souhaite en tout cas au Guingampais. On commence comme pour chaque magazine des déchaînés du football par l'équipe du Finistère, l'équipe première du Finistère, à savoir le Stade Brestois.
Oui, ça va pas très très fort hein, du côté de Brest. On va y revenir dans quelques instants parce que d'une part, les résultats ne sont pas très bons. Il y avait un calendrier terrible hein, pour cette équipe de Brest sur les 3 premiers matchs notamment avec 3 équipes européennes, Lyon, puis Rennes, puis Paris.
Ouais, c'était pas simple. Hein.
C'était pas simple. Ouais. Pourtant, il y avait eu 2 points en 3 matchs sur ces rencontres-là.
C'était pas mal au départ, ouais.
Voilà. Et bon, le premier vrai accro, c'est hier à Strasbourg. C'était hier avec donc cette défaite 3-1. On va revenir sur cette rencontre, évidemment, avec la réaction des uns et des autres. Mais d'abord, alors, on n'a pas choisi de mettre le résumé du match parce qu'en plus, c'est une défaite, c'est pas très glorieux. Mais on va vous remettre le moment de folie du duplex.
Ouais. Ça avait pourtant pas forcément très mal démarré pour les Brestois. Alors, bon, ils avaient pris un but, c'est vrai, mais l'égalisation est intervenue très rapidement et on s'est pris à espérer, en fait.
Oui, et puis même en début de seconde période, Brest a eu les occasions pour revenir à 2 buts partout. Brest aurait dû revenir à 2 partout. Malheureusement, ça n'est pas passé. On va se replonger. Souvenez-vous hier, allez, il est 15h24 sur Radio Bonheur.
Un
il
y a 0-0. 15h26-27, je crois.
Je crois que le but de Lens est à la 24e, il me semble. Bon, oui. C'est 23 alors.
Ah bon.
15h23.
Je me trompe peut-être alors.
Bon. En tout cas, ça a fini à 15h27. Écoutez, ça dure 3 minutes 16. À ce moment-là, il y a 0-0 entre Lens et Lorient et Strasbourg et Brest. Et là, on entre dans une autre dimension.
Le coup franc pour les Lensois à la 24e minute de jeu, excentré côté gauche, un petit peu plus loin que celui qui avait atterri sur le poteau tout à l'heure. Mais Klos est toujours autour du ballon, tout comme Gaël Kakuta. Ce sera pour Klos, ce sera direct encore. Et cette fois, ce ne sera pas sur le poteau, mais dans le but pour Jonathan Klos. L'ouverture du score, quel coup de patte du latéral du Racing Club de Lens. Et ce ballon qui termine au fond, Nardi ne peut rien sur cette balle. C'est chirurgical ce que propose le Lensois Jonathan Klos. Et il inscrit son premier but de la saison. Lens ouvre le score face à Lorient, 1-0.
Ouais, ça se confirme, ils sont forts les Lensois en ce début de saison, alors que s'attendait à s'équilibrer dans ce match entre Lens et Lorient. Ouverture du score pour les Lensois, 1-0 pour Lens face à Lorient. Dans le même temps, Brest tient toujours le match
attention,
nul.
Strasbourg ici à l'attaque, Strasbourg dans la surface avec ce crochet, le ballon en retrait, c'est contré une fois le but. Oh, l'ouverture du score
l'ouverture du score au même moment pour le Racing Club de Strasbourg. C'est Sanjin Persic qui vient permettre au Racing de mener 1-0. C'était eux les plus dangereux dans cette rencontre. Ils s'y sont remis à 2-3 fois pour aller marquer ce but à Marco Bizzo. Mais Sanjin Persic à l'origine et à la conclusion de ce mouvement côté droit, ce ballon qui est passé dans une forêt de jambes. Et Strasbourg mène 1-0 face à Brest.
Ah ouais, c'est du simultané hein, là, nos deux clubs bretons qui viennent d'être menés au score 1-0 donc pour Strasbourg face à Brest et 1-0 pour Lens face à Lorient. C'était la vraie première grosse occasion de Strasbourg, Pierre.
À la deuxième. Alors c'était la vraie première occasion dans la surface, mais il y a eu ce tir, souvenez-vous, au bout de 2 minutes d'Ajorc, très dangereux, repoussé par Bizzo. Et c'est un super mouvement sur le côté droit, Persic qui a fait un crochet superbe sur Belkebla dans la surface, centre en retrait pour Thomasson dont le tir a été contré par Ajorc lui-même, son partenaire, et c'est revenu dans les pieds de Persic à l'angle des 6 mètres, une frappe à ras de terre sur laquelle Bizzo ne peut rien. Mais ils étaient en nombre, ils étaient 4-5 dans la surface de réparation, et malheureusement là, les Brestois submergés sur cette vague bleue. Strasbourg mène donc 1-0. C'est la première fois que le Racing ouvre le score cette saison en Ligue 1. On va voir maintenant la réaction de cette formation brestoise, peut-être là directement avec Cardona, la frappe et l'égalisation. L'égalisation immédiate après à peine 1 minute depuis l'engagement. Cardona qui a profité de l'apathie défensive de Strasbourg sur le coup d'envoi. Il est passé sur le côté gauche, il s'est présenté seul face à Matsels et du bout du pied il vient mettre ce ballon dans le petit filet opposé. Il avait déjà marqué à Lyon lors de la première journée. Il récidive à Strasbourg.
Oh, Brest, l'occasion, l'Orienté en face à face face à l'écart, l'Orienté qui égalise, l'égalisation lorientaise. Le drapeau qui se lève, non c'est bon, c'est validé, un but partout, l'Orienté qui égalise pour le Football Club de Lorient, une passe dans la profondeur, et comme les Brestois, et bien juste après l'ouverture du score lensoise, Lorient égalise à son tour, un but partout à Bollaert.
Qu'est-ce que c'est que ce duplex?
Incroyable ça, tous les buts ont lieu en même temps. En tout cas, on a vécu, c'est vrai, 3 minutes folles avec 4 buts.
Il n'y a pas de montage.
Oui, il n'y a pas de montage. C'est brut de pomme. Et ça s'est passé en 3 minutes. 4 buts en 3 minutes avec l'ouverture du score de Lens puis de Strasbourg et l'égalisation de Brest puis de Lorient. Tout s'est fait en 3 minutes.
Surtout le même scénario, en fait. L'équipe à domicile qui marque, l'autre qui égalise. Ouais. Et on en parlait avec Gaëtan. On n'a pas souvenir de choses aussi folles dans un duplex Radio Bonheur. Peut-être le tout premier qu'on avait fait, certains s'en souviennent peut-être, c'était en CFA, la dernière journée. En 2016 entre Saint-Malo et Lorient B et Concarneau contre Trélissac. Il y a eu, je crois, 13 ou 14 buts sur les deux matchs.
5-1 pour Concarneau.
On avait du mal à les compter.
5-3 pour.
5-3, oui, 14 buts en
14 buts en deux matchs, c'était fou. Et là, c'est vrai, alors il y a eu moins de buts, mais effectivement, le scénario.
Mais là, on était en Ligue 1, quoi. C'était quand même un autre niveau aussi. Donc, c'est vrai que c'était un moment extraordinaire. Alors, Lorient a réussi à tenir pendant tout le match, a même pris l'avantage. Hein. Mais bon, la déconvenue a été plus importante pour les Brestois qui ont longtemps cru pouvoir revenir à 2-2 et au moment où on a cru qu'ils allaient pouvoir égaliser, ils prennent ce troisième but et là c'est fini.
Ouais, avec un contre 1 notamment assez mal négocié par les Brestois malheureusement dans cet après-midi à la Méno. On va se plonger maintenant dans les réactions des uns et des autres. Voici d'abord la réaction de l'attaquant Franck Honora au micro d'Amazon Prime après la rencontre.
On savait que ça allait être compliqué, mais que c'était une équipe qui était à notre portée. On était venu chercher les 3 points ici, mais en jouant comme on l'a fait en première mi-temps, comme à l'entraînement, c'est pas possible de gagner des matchs. Il faut qu'on change d'attitude et qu'on arrête de faire des erreurs bêtes qu'on fait même pas au centre de formation. Donc maintenant, il faut relever la tête et gagner les matchs au mois de septembre.
C'est vrai, parce que là ça commence à durer hein, pour les Brestois, alors qu'ils vont avoir un calendrier qui va un petit peu s'alléger avec notamment s'alléger parce que c'est
d'Angers.
Quand même Angers qui est deuxième qui arrive à Le Blaise sur
enfin disons qu'Angers ne faisait pas partie des favoris avant
normalement,
le début de ce championnat,
mais c'est une très très belle équipe hein, pour avoir eu la chance de voir quelques matchs de la nouvelle équipe de Gérald Baticle. C'est très très intéressant du côté d'Angers, mais intéressons-nous à Brest, Gaëtan. Alors, le coach a changé,
oui,
mais l'équipe n'a pas beaucoup changé et surtout, les erreurs restent quasiment les mêmes.
Oui, c'est vrai. On repart presque avec la même équipe parce que, mis à part Romain Perrault sur le côté gauche de la défense, mis à part Romain Fèvre qui n'était pas là hier et qui sans doute ne rejouera plus avec Brest, On reste sur la même équipe que l'année dernière. C'est sensiblement la même chose. Alors le gardien aussi a changé, mais ça, bon, l'Arseneur est encore là. On ne sait pas si on le reverra aussi avec Brest. Mais c'est vrai qu'on voit le même genre d'erreur.
La naïveté, beaucoup de naïveté.
Ouais, une équipe aussi friable sur coup de pied arrêté. Encore, on la sent un petit peu. Autant c'était pas trop le cas à Lyon et contre Rennes sur les deux premiers matchs. Autant j'ai l'impression que ça redevient une petite faiblesse aussi. Ça s'est pas vraiment matérialisé sur les buts de Strasbourg. Mais quand même.
Il va falloir gagner maintenant, c'est ça qui est important pour Brest, hein, pour éviter de se faire peur dans ce début de championnat. 2 points seulement en 4 matchs, alors voilà, il y a encore un peu de temps, mais il ne faut pas traîner, il va falloir se réveiller du côté de Brest. On se souvient que l'année dernière, on avait eu une victoire assez vite quand même, avec une première défaite, je crois, première.
Deux défaites, puis une victoire ensuite.
Ouais, voilà. Bon, on n'avait pas attendu trop longtemps. Maintenant, on espère aussi retrouver ce petit vent ce petit vent de folie qu'on connaissait des Tizèf, qui nous faisait vraiment vibrer l'année dernière, surtout en première partie de championnat. Voilà, dans la mesure où on a aussi un club qui reste presque identique, on peut espérer quand même aussi voir cette attaque brestoise se réveiller.
On dit presque identique, moi je trouve quand même qu'ils ont perdu des forces dans ce mercato. Si Fèvre part, je pense qu'ils auront perdu des forces.
Ah oui, si Fèvre part,
alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a pas mal d'absents de longue durée. On pense à Paul Lannes qui a été très important l'année dernière. Erel qui
qui n'a pas joué depuis le mois de mémoire de février, qui est blessé, qu'on n'a pas de date de retour d'ailleurs pour l'ancien niçois. C'est assez compliqué. Et puis c'est vrai qu'il y a surtout pas eu les recrues espérées pour l'instant par Michel Darzakarian hier encore ou juste avant le match.
C'est pas tout à fait fini.
3-4 joueurs.
Ouais, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore.
Mais il reste 24 heures pour 3-4 joueurs. Mmh.
Alors il y en a un qui devrait arriver.
Normalement,
c'est
oui.
Quasiment fait. C'est Lucien Ngoumi. On en parlait hier. Oui. Le milieu de terrain de l'Inter Milan qui devrait être prêté par le club italien. Mais oui, il manque. Je crois que Darzakarian voulait un joueur par ligne.
Oui, c'est ça.
Bon, et alors ça semble bouger. Pour un attaquant, il y a eu le nom de Baoken, l'attaquant d'Angers, qui est un petit peu sorti. On va voir, on fera le point sur le mercato après la prochaine pause.
A priori, d'après nos amis de Brest-Tonnerre, Youssouf Badji, jeune attaquant de 19 ans, est prêté par le FC Bruges, première division belge, donc prêté au Stade Brestois cette saison. Et Brest qui aimerait, c'est au conditionnel, mais qui aimerait aussi faire revenir Bandiougou Fadiga, l'attaquant parisien qui était prêté sur la deuxième partie de saison de l'année dernière, qui est reparti au PSG et Brest aimerait le faire revenir.
Il y a un embouteillage au PSG. Est-ce qu'ils ont recruté Messi, etc. Donc tous les jeunes qu'ils voulaient faire jouer, ils sont obligés de les prêter.
Fadiga, Calemwendo, ils sont tous en train de repartir.
Voilà, okay. Exactement. Un mot donc avant le mercato sur le match d'hier et notamment cette porosité défensive qui a été encore une fois pointée du doigt par l'entraîneur Michel Darzakarian.
On défend à 10, on attaque à 10. C'est le football, il est comme ça. Hein. Après, c'est comment on se positionne pour bien défendre. Voilà, là. Le deuxième but qu'on prend, même si on perd le ballon à 30 mètres de leur but, on se fait en 3 passes, on se fait transpercer. On doit fermer les passes intérieures, le ballon il faut qu'il aille sur l'extérieur pour pouvoir défendre. Et là on se fait transpercer entre mon stopper et mon arrière à gauche. C'était Rivine qui était revenu, voilà. Il avait perdu le ballon et derrière il est fait mal aussi. C'est comme ça, c'est le football, quand on fait des erreurs on paye.
Ouais, et il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'erreurs malheureusement depuis le début de saison pour cette équipe de Brest. Par contre, on l'a noté hier, il y a eu une bonne seconde période, il y a eu un temps fort autour de l'heure de jeu, symbolisé notamment par cette tête smatchée de Steve Mounier sur corner qui était à deux doigts hein, de pouvoir égaliser. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, Brest n'a pas réussi à revenir à 2 buts partout, mais Darzakarian garde quand même un peu de positif de ce second acte.
On a une meilleure maîtrise de technique en premier temps. On récupérait le ballon, on l'a perdu trop vite. Voilà, on tenait pas assez bien le ballon, même si on a eu des situations en première mi-temps, mais la tenue du ballon était pas bonne au milieu de terrain. Voilà, on l'a perdu trop vite. En deuxième mi-temps, on a eu des bonnes séquences parce que la tenue du ballon était plus juste, les déplacements étaient meilleurs. Et eux, ils nous ont fait mal chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, dans leur jeu combiné, leur milieu qui plongeait chaque fois. Voilà, on a eu du mal à juguler toutes leurs courses qu'ils ont faites et c'est ce qui nous a fait perdre le match. Ouais.
Oui, Strasbourg qui a marqué le troisième but à l'entrée du dernier quart d'heure, un but qui a fait mal aux Brestois qui étaient tous devant quasiment, c'était un contre un, joué derrière sur le but du 3 buts à 1. Que dire maintenant hein, quel petit bilan on peut faire Gaëtan de ce début de saison, vous qui avez suivi les trois premiers matchs des Tizèf?
Mais disons que on le disait sur les deux premiers matchs, c'était plutôt encourageant parce qu'il y avait une certaine solidité qui se dégageait. Il y avait surtout une équipe qui était très entreprenante, assez pétillante même, avec quelques occasions et surtout contre le Stade Rennais. Et puis là, c'est vrai que bon, il y a le match du PSG qu'on peut-être mettre entre guillemets entre parenthèses parce que le PSG c'est toujours un petit peu différent. Mais 4 buts encaissés et surtout encore 3 contre Strasbourg, ça fait 9 buts concédés depuis le début de la saison. Alors c'est une équipe qui remarque à chaque fois, ça c'est l'avantage, mais c'est vrai que ça fait quand même ces lacunes défensives qui semblent être toujours présentes du côté de Brest. Il y a en plus des absents dans cette défense, il y avait en tout cas hier Brendan Chardonnay qui était absent. Voilà, c'est une équipe qui va devoir se renforcer parce que sinon ça peut être très compliqué, surtout qu'il y a un banc assez court, on le voyait hier, seulement 6 remplaçants, il me semble.
6 joueurs, effectivement.
Sur le banc, alors qu'on peut en avoir 9 désormais, donc c'est... Avec un effectif aussi court, ça peut tenir sur quelques matchs, ça peut faire de bonnes choses, mais sur la durée, ça peut être compliqué.
Réaction à cela de Michel Derzakarian. On lui a posé la question hier chez nos amis diffuseurs de la Ligue 1 et... Le journaliste disait, bon, il y a eu 2 points sur les 2 premiers matchs, il y a eu une défaite plutôt honorable contre Paris. Le journaliste n'a pas eu le temps de finir sa question, écoutez un petit peu la colère de Derzakarian.
Paris, on a pris 4 buts, les gars. On a pris 4 buts contre Paris. Quand je prends 3 buts, je vais pas dire j'ai fait un bon match. On n'a pas fait un bon match. Il faut être réaliste.
À la fois,
tu prends 3 buts, ça va. Mais tous les matchs, je vais faire un bon match et tous les matchs, je vais prendre 3 buts, c'est bien. Oui, mais Lyon, on doit le gagner, là, Lyon. On doit le gagner, on ne gagne pas. Il faut marquer. Quand on a les situations pour faire 2-0, 3-0, on les a eues dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps à Lyon, mais on ne les met pas. Et derrière, ça fait un partout.
Ah, c'est vrai.
Oui, cette équipe de
t'es
presse.
Remonté, donc... hein.
Ah oui, et puis il a aussi un petit peu haussé le ton en conférence de presse par rapport au cas Romain Fèvre dont on parlera dans quelques instants. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions aussi après les matchs de préparation, il y avait beaucoup d'inquiétudes. On avait été plutôt rassurés par le contenu, même les résultats hein, contre Lyon et Rennes. Mais là, force est de constater que ça dure un petit peu.
Mais oui, c'est ça. Alors, on le disait, il y a eu ce début de saison avec un calendrier important, avec difficile. De grosses équipes, difficiles. C'est vrai que Strasbourg, c'était un peu le premier tournant. Ceci dit, on aurait peut-être un discours totalement inverse si Brest avait gagné ce match-là. Alors qu'en soi, peut-être que la prestation n'aurait pas forcément été meilleure. À un moment donné, ils ont eu les occasions pour passer à 2-1. Brest. Et on aurait peut-être eu un discours inverse. Faudra voir un peu plus de
durée. Faut attendre un peu. Voilà. Je pense qu'il faudra une fois attendre et...
Mais c'est sûr que l'effectif patient. Doit être renforcé quand même. Ça va être quelque chose de prioritaire parce que sinon ça peut vraiment se compliquer assez rapidement.
Eh bien le mercato, on en parle dans quelques instants après la première pause de ce magazine.
Non, mais excusez-moi, je voulais juste revenir
Léa,
sur...
Léa, qu'est-ce que tu fais ?
Non, chérie, c'est important. Quand vous dites pour le pire, c'est vraiment... Je veux dire non négociable, parce que c'est très engageant quand même.
Oh, si tout pouvait être aussi facile qu'avec O2. O2 invente le service à domicile sans engagement. Un an, un mois, une semaine, un week-end ou même une journée, avec O2, c'est sans engagement. Garde d'enfants, ménage, repassage, soutien scolaire, aide aux personnes âgées, jardinage, bricolage, O2 s'occupe de tout.
Inspirez, respirez, O2 est là.
Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf, c'est pas sérieux. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit. Une promo comme ça, faut pas la rater. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 11 septembre.
Carglass répare, Carglass remplace.
Voir conditions sur carglass.fr.
On n'a plus personne de dispo à la prog.
Pour son studio de jeux vidéo, Sébastien a besoin d'un nouveau programmeur. Sinon, ça risque d'être game over. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil.
J'ai besoin d'Indeed.
Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats. Il est trié selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Leclerc.
Ah tiens, il y a des barres de céréales Chocapic.
Oui, et c'est génial pour les ados.
Ils ont jamais faim, mais tous les jours, il y a deux bars qui disparaissent de la boîte.
Goûter express plein d'énergie.
Voilà. Et comme les 6 bars Chocapic de Nestlé sont à 1,51€ avec 34% de réduction immédiate, soit 1€ la boîte, je fais des réserves.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 31 août au 11 septembre, soit 6,67€ le kilo. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Quand Pierre et Sophie ont pris le pack open avec Internet TV et forfait mobile, c'était surtout
pour se simplifier la vie.
Et comme ils peuvent aussi rajouter jusqu'à 4 forfaits à prix réduit
avec plein de gigas pour les enfants,
fini les disputes pour choisir sa série.
Forfait 70 gigas 5G à 14,99€ par mois pendant 12 mois, puis 29,99€ par mois pour clients pack open. Orange. Valable jusqu'au 6 octobre pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Débit max théorique variable selon fréquence. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr.
Les enfants, c'est prêt. Merguez ou chipot?
Mais papa, sérieux? Il y en a marre des saucisses au petit-déj.
Pas facile d'oublier les vacances, hein? Profitez des ventes flash de rentrée Amazon jusqu'à moins 40%. Vous avez bien entendu, jusqu'à moins 40%, mais jusqu'au 6 septembre seulement.
On en parle.
De nombreuses marques communiquent sur leurs engagements environnementaux. Mais qu'en est-il vraiment? On parle tout à l'heure de Tefal, un bel exemple d'économie circulaire.
Mardi fou, oh, fou, c'est fou!
Qu'est-ce qu'il a?
Bah, on lui a dit que le mardi chez Domino's, c'était mardi fou. Toutes les pizzas médium et large à emporter sont à 7,99€. Il a pété les plombs.
Ah oui, chez Domino's, c'est fou, fou, fou le mardi!
Domino's!
Prix conseillé à emporter hors signature. Conditions et Domino's participants sur Domino's.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sérieux? Poignard se fête ses 50 ans toute l'année? Ça alors?
Eh oui! Et jusqu'au 25 septembre, avec Point S, tentez de gagner une voiture et 50 trottinettes électriques. Et c'est pas tout! Point S vous offre des balais d'essuie-glace et jusqu'à 120€ pour l'achat de pneus Goodyear.
Eh ben voilà, pas de stress, il y a Point S.
Voir conditions sur points.fr.
Allez, 19h25 en direct, le magazine des déchaînés du football. Jusqu'à 20h30 avec Gaëtan Pinel et Pierre-Henri Dufeuille.
Oui, avec ce cas, Romain Fèvre du côté de Brest. Rappelons les faits. Samedi soir, le groupe pour le déplacement à Strasbourg est communiqué par le club brestois. Romain Fèvre est là. Oui. Parmi donc les 18 sélectionnés de Michel Derzakarian. Sauf que, au moment d'embarquer à l'aéroport, Romain Fèvre n'est pas présent et prévient le club qu'il ne viendra pas se présenter pour ce match parce qu'il est en instance de transfert à l'AC Milan et il ne veut pas prendre le risque de se blesser pour que le transfert, permettez-moi l'expression, capote. Ça n'a pas du tout plu au Stade Brestois.
Non, c'est pas
d'être
très gentil.
Mis devant. Mmh. Alors. Que lui pense ça et veuille ça d'accord, mais qu'il mette le club sur le fait accompli, c'est surtout ça qui n'a pas pu.
Non,
notamment
il est toujours payé et il est toujours sous contrat avec Brest, donc il n'a pas à dire ah moi je joue pas parce que voilà je vais peut-être partir et je veux préserver mon état de santé physique actuel. Donc ça ne se fait pas quand on est joueur de foot. Quand on fait partie d'un club, on joue pour le club. Oui. Qu'importe les motifs après, surtout pour quitter le club, quoi. Bon, c'est moyen. C'est vrai.
Oui, et alors, on rappelle que le mercato se termine demain, 31 août, à 23h59 et 59 secondes. On ne sait jamais. Pour les fax, les secondes peuvent être importantes. Il est proche de l'AC Milan. Il y a eu une première offre à 10 millions d'euros qui a été refusée. Brest en veut 15. Ça se jouera sans doute entre les deux. Peut-être 12, oui, 13 millions d'euros.
Avec des bonus ou ce genre de choses. Maintenant, il y a quand même pas mal d'options pour combiner les contrats. Mais oui, bon, ça devrait a priori. En tout cas, ça semble être plus ou moins. Enfin, plutôt en bonne voie d'ailleurs, si Fèvre a fait cette démarche.
Visiblement, le Milan est très confiant pour boucler ce dossier. On verra ce qui se passe, mais imaginez, hein, il pourra jouer avec Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic.
Oui, c'est sûr, c'est une belle perspective pour Fèvre. Mais
ça a mis Brest
mais
dans
bon, c'est pour, voilà, pour Brest, c'est moyen. Je comprends que le club ne réagisse pas.
Il aurait pu avoir un accord entre Brest et le joueur. Mmh. Voilà. Mais là, ce n'était pas le cas. Du coup, il met l'équipe dans l'embarras pour le déplacement.
Ça manque de communication.
À Strasbourg, non, c'est pas du tout une bonne manière de fonctionner parce que dans ce cas, c'est la jungle. Hein. Il y aurait eu 3-4 joueurs dans cette situation.
Oui, et puis il y a beaucoup de joueurs qui sont contactés, qui ont des agents et qui peuvent à tout moment aussi partir. Si soudainement, on ne peut pas compter sur un joueur,
Kylian Mbappé. Qui est visiblement proche du Real Madrid.
Il a quand même marqué deux buts hier. Voilà.
Il était là hier.
Non, c'est pas bien. C'est pas bien.
Ça peut aussi expliquer d'ailleurs le match d'hier en partie parce que les plans ont dû être revu aussi d'une certaine manière. Et surtout, Romain Fèvre, c'est quand même le leader technique offensivement. Oui. Du Stade Brestois, donc bon.
Question posée après le match à Hugo Magnetti, le milieu de terrain. Romain Fèvre a-t-il manqué ? Réponse.
Oui, c'est sûr que Romain Fèvre a manqué aujourd'hui. Voilà, c'est notre leader technique. Devant, c'est lui qui crée nos occasions. Voilà, aujourd'hui, il n'était pas là. Il fallait faire avec nos armes. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on l'a mieux fait qu'en première. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas été récompensé quand même.
Mmh. Ouais, une grosse perte si jamais Romain Fèvre venait à partir. Révélation de l'an passé, hein, tout de même, surtout sur la première partie de saison. Ouais. Romain Fèvre, et puis qui a été, je pense, pour moi, l'auteur du geste de ce début de saison en Ligue 1.
Ah, oui.
Cette talonnade contre le PSG. J'ai pas vu mieux depuis le début de saison.
Ah non, sublime.
En Ligue 1. Urgence donc dans le mercato du Stade Brestois. Question posée aussi à Franck Honorat. Il n'y avait que 6 joueurs sur la feuille de match. Y a-t-il urgence à recruter ? Bon, c'était pas forcément à lui de répondre, mais voici son avis sur la question.
Après, c'est au staff et à la direction qui est plus haut de faire des choix, parce que là, on était 17 aujourd'hui avec un seul attaquant, donc c'est compliqué. Une saison, c'est long. S'il y a des blessures ou des joueurs qui sont suspendus, ça va être compliqué, mais voilà, j'ai espoir qu'il y ait des joueurs qui viennent nous aider.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était pas fini.
Ouais, parce que 17 joueurs en plus hier, et on regardait avec Pierre les 3 joueurs qui ne sont pas entrés, c'est le gardien remplaçant bien sûr. C'est Denis Bain qui n'a pas joué depuis un an et demi, parce qu'il avait été blessé toute l'année dernière. Mmh. Et c'est le jeune Noé So qui n'a jamais joué en Ligue 1. Donc ça montre vraiment la pauvreté actuelle. Mmh. Hein,
De l'effectif.
Ouais. Lorenzi, le directeur sportif, a été assez honnête dans les médias durant ce mercato. Il l'a dit, comme pas mal d'autres clubs, ils n'ont pas d'argent pour recruter. Ça passe par des prêts, ouais. Ça passe par des joueurs libres. Mais là le temps presse. Alors les joueurs libres, je crois qu'ils peuvent les prendre n'importe quand aussi, d'ici le mois de décembre,
même après la fin du mercato. Ça c'est pas un problème.
Ouais. Donc,
mais voilà, c'est jamais c'est bon étonnant, de se retrouver non plus dans une urgence de recrutement. On parle souvent du panic buy, c'est-à-dire le fait d'acheter des joueurs en dernière minute pour essayer de construire quelque chose qui puisse tenir la route, et souvent ça ne fonctionne pas vraiment. Alors la différence de cette année, c'est que c'est le cas pour beaucoup d'équipes, parce que le marché a été bloqué assez longtemps.
Oui, et puis les problèmes financiers rencontrés par Brest sont des problèmes communs à de nombreux clubs de Ligue 1. Depuis l'absence de public, la chute des recettes publicitaires divisées par deux, c'est énorme. Enfin, des recettes télé.
Des droits télé, c'est énorme.
Paris, Nice, Rennes. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont pu dépenser. Lyon a dû vendre pour dépenser. Marseille a beaucoup recruté au début du mercato, mais là, ils veulent compléter. Il y a la DNCG qui dit « Allô, il y a un peu trop de dépenses. » Donc, même Lille, le champion.
Lille, c'est leur modèle depuis plusieurs années de vendre toujours pour pouvoir investir derrière. Ils ont toujours besoin de ce
flux tendu. C'est un vrai problème, mais qui n'est pas propre à Brest, en tout cas.
C'est vrai.
Ouais, à voir maintenant comment ça va se décanter. On vous tiendra évidemment informé lors des rubriques 8h40, 17h40 sur Radio Bonheur. Tous les jours, on en parlera demain. Et puis évidemment, dans celle de mercredi qui fera suite. On va se coucher tard, hein, mardi soir, pour faire les rubriques. Toute dernière seconde, ça peut bouger. On vous tiendra évidemment informé de tout ça.
On parle de Lorient à présent, 19h30 passé, 19h32. Le football club de Lorient a réussi quand même globalement son match hier. Aurait pu même gagner ce match à Lens. Il n'a pas manqué grand chose. Bon, ça s'est terminé par un 2-2. Mais Lens avait le match, les commandes en main pendant une partie de la rencontre, en menant 2-1.
Ça aurait pu
faire 3 points. Bon. À Lens, il faut s'estimer quand même assez satisfait, je pense, du résultat et du partage des points. Ça reste une belle opération pour les Lensois, pour les Lorientais.
Du résultat et de la manière, surtout après la déconvenue à Montpellier une semaine plus tôt, où vraiment Lorient était passé à côté de son match, et surtout à côté de sa deuxième mi-temps, mais même du match dans sa globalité. Là, on a retrouvé une équipe offensive avec des occasions, ce qui n'avait quasiment pas existé à Montpellier. Une équipe qui a aussi su, alors il y a deux buts concédés rater quand même, mais qui a aussi plutôt bien défendu malgré les nombreuses absences, parce qu'il y avait quand même Jérémy Morel, Oboulang Mendes et Loris Mouyokolo, trois défenseurs centraux absents. Jérôme Ergo, latéral droit ou piston droit, était aussi absent. Donc il a fallu faire avec une reconstitution de la défense, et notamment Léo Petro, le jeune Léo Petro qui a fait son premier match en Ligue 1. Donc tout cela mis bout à bout, on était quand même très content de la partition livrée par les Merlus hier, et on écoute ce qu'il s'est passé dans ce match avec le résumé de ce Lens-Lorient.
C'était hier après-midi sur Radio Bonheur.
Coup franc bien dangereux parce qu'il est légèrement excentré sur la gauche, à 25-26 mètres du but de Paul Nardi, et il est pour le droitier Jonathan Kloss, lui qui a réalisé une très belle saison l'année dernière avec notamment 6 passes décisives. C'est parti pour Kloss, le poteau pour le Racing Club de Lens sur cette frappe enroulée de Jonathan Kloss, l'ancien avant-chinais qui voit ce ballon s'écraser sur le montant de Nardi avant que le moine ne dégage. Mais Kloss est toujours autour du ballon, tout comme Gaël Kakuta. Ce sera pour Kloss, ce sera direct encore. Et cette fois, ce ne sera pas sur le poteau, mais dans le but. Pour Jonathan Kloss, l'ouverture du score. Quel coup de patte du latéral du Racing Club de Lens. Et ce ballon qui termine au fond, Nardi ne peut rien sur cette balle. C'est chirurgical ce que propose le Lensois Jonathan Kloss. Et il inscrit son premier but de la saison. Lens ouvre le score face à Lorient, 1-0.
Récidive à Strasbourg.
Oh, l'occasion, l'Orienté en face à face, face à l'Eka. L'Orienté qui égalise. L'égalisation lorientaise. Ah, le drapeau qui se lève. Non, c'est bon, c'est validé. Un but partout. L'Orienté qui égalise pour le Football Club de Lorient. Une passe dans la profondeur. Et comme les Brestois, eh bien, juste après l'ouverture du score lensoise, Lorient égalise à son tour. Un but partout à Bollaert.
Qu'est-ce que c'est que ce duplex?
Incroyable, ça, tous les buts ont lieu en même temps.
De Pierre Gabriel qui s'est fait chipper le ballon.
Frappe, et le deuxième but l'Orienté. Et c'est Thomas Moncondui qui vient tromper la vigilance de l'Eka sur cette frappe qui touche le poteau avant de terminer au fond suite à une remise dans le but de Terem Moffi. Ah, ils ont surpris tout le monde, et l'Orienté sur ce ballon. Et Moncondui qui vient marquer son premier but de la saison, son quatrième en Ligue 1. Et Lorient qui en un quart d'heure, un petit peu moins d'ailleurs, renverse totalement le Racing Club de Lens et mène désormais 2-1 ici à Bollaert.
Ouais, c'est complètement fou ce match, Gaëtan.
La tête de
attention, Bouguier. Attention, ici la frappe lensoise, elle est repoussée par Paul Nardi, elle était dans un angle quasi fermé, côté gauche de la surface de réparation, mais lourde frappe d'Ignatius Ganago.
Sur Dimitri Liena.
Kakuta, Fofana, Ganago, c'est sorti encore par Paul Nardi, mais quelle intervention du gardien lorientais qui vient sauver les siens. Alors, en un contre un. Attention Moffi, 2 contre 2 pour les Merlus, 3 contre 2, même frappe de Moffi. Oh mais il a croqué la faille. Terem Moffi, il avait Abergel tout seul sur le côté gauche qui demandait le ballon, qui avait accompagné le mouvement pour jouer le surnombre face au Lensois, et Moffi qui a frappé à l'entrée de la surface, une lourde frappe, mais qui s'envole.
Le mercato dure 3 mois.
Moffi, l'Orienté, la frappe de l'Orienté dans la surface. Ballon en retrait avec Abergel qui va la tenter. C'est détourné. C'est détourné par l'Eka. La balle de 3-1 repoussée par le portier lensois. Un coup à jouer à Bollaert pour les Lorientais. Moffi décalé par l'Orienté. Moffi sur son pied droit, la frappe. Ah, ça passe à côté. Ah, qu'est-ce qu'il a manqué, Terem Moffi. Ça fait deux opportunités énormes de 3-1 gâchées par Terem Moffi. Et celle-là, en plus, il était vraiment proche du but, quasi à l'entrée des 6 mètres. Il avait été bien décalé par l'Orienté, sauf qu'il a complètement écrasé sa frappe, qui n'est même pas cadrée, alors qu'il était donc, on le disait, à l'entrée des 6 mètres. Contre-attaque lensoise. Kloss avec Kakuta. Frappe de Kakuta. Non, il est repris. La frappe ensuite à l'égalisation lensoise. Évidemment, c'est Seko Fofana qui égalise. Voilà, ils ont loupé 3 occasions de 3-1 1 pour les Lorientais. Conséquence, ils se font reprendre par le Racing Club de Lens. 2-0. C'est terminé de partout. Le FC Lorient peut nourrir quelques regrets, mais gratte tout de même un très bon point.
Ouais, un bon point du match nul, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que Lorient aurait pu mettre ce troisième but à de nombreuses occasions. Oui. Et qu'avec ce troisième but, les Merlus seraient sans doute repartis de Bollaert avec 3 points. C'est vraiment dommage.
Mais
surtout,
surtout que
l'égalisation intervient quand au moment où Lorient pousse pour mettre ce troisième.
Exactement, il y a une grosse occasion pour Mofi. Inexplicablement, il ne cadre pas sa frappe alors qu'il est dans les 6 mètres. Et derrière, le 6 mètres est rapidement joué par Leka. Et l'attaque file au but pour le Racing Club de Lens et égalise. C'est presque une contre-attaque finalement pour les Lensois. Ils égalisent là-dessus alors qu'il y avait eu déjà 2 autres occasions auparavant pour Mofi, dont une où il oublie à Bergel. Voilà, ça s'est un petit peu multiplié. Alors Mofi, c'est vrai qu'on peut, entre guillemets, le jeter la pierre sans s'écouler de ne pas avoir marqué son petit but.
Attention quand même à ce que vous dites sur terrain Mofi.
non mais
je veille au grain.
Je contrebalance parce que d'un autre côté, il s'est créé les occasions, ce qui n'avait pas été le cas à Montpellier la semaine précédente, et là-dessus ça a été rassurant de le voir devant le but justement assez régulièrement.
J'ai le journal de l'équipe sur les yeux, il y a quand même la meilleure note lorientaise.
Combien?
Il y a 7 avec l'Orienté.
Il fait la passe décisive pour mon conduit sur le deuxième but, et puis voilà, c'est vrai qu'il a pêché devant le but en deuxième mi-temps, mais il s'est créé les occasions. Et ça, c'est quand même important parce qu'il a été très remuant sur le front de l'attaque. Alors, on le disait, il y avait eu la déconvenue à Montpellier la semaine précédente. Défaite 3-1 avec 32 tirs concédés. Ça avait été une furia pas possible sur le but de Paul Nardi. Et l'équipe, mentalement, elle a bien réagi. Et Christophe Pélissier, il en était très satisfait en conférence de presse.
La satisfaction, c'est la tenue de la tenue dans l'état d'esprit, la tenue mentale de mon équipe. Comme vous dites, on connaît ici déjà la remarquable qualité de cette équipe, l'environnement et je tiens à souligner aussi un remarquable public. C'est extraordinaire de venir jouer des matchs ici. Et là, il a fallu 1-0, être très fort mentalement. C'est ce qui me rend très heureux ce soir parce que voilà, ça fait 4 matchs, il y a 4 journées, ça fait 4 journées qu'on mène au score. Que ce soit contre Saint-Etienne, contre Monaco et aussi à Montpellier où on menait quand même la semaine dernière 1-0 à la mi-temps et on s'est effondré en deuxième. Donc à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, qu'ils élèvent leur niveau. Et je crois que sur la deuxième mi-temps, même si malheureusement on se fait égaliser, mais on a fait une mi-temps qui me satisfait. Je crois que ce soir, il y a eu beaucoup de positifs.
Et oui, et vous l'avez entendu ce qu'il a dit Christophe Pélissier aussi, ça fait 4 fois en 4 matchs que Lorient mène dans ses rencontres. Il menait 1-0 à Saint-Etienne, un partout à l'arrivée. Il menait 1-0 contre Monaco, victoire 1-0. Il menait à Montpellier avant d'être renversé. Et là encore, hier, ils ont mené dans ce match. C'est le regret qu'on peut avoir du côté de Lorient de ne peut-être pas avoir engrangé une deuxième victoire sur ces 4 matchs du fait d'avoir eu quand même les commandes à chaque fois finalement dans les rencontres.
Bah c'est de oui et... Pourtant, on a vu une grosse capacité de résilience, notamment contre Monaco, hein, et pas n'importe qui, Monaco dans le championnat. Bon, tout ne peut pas être parfait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vu Lorient manquer globalement son début de saison l'année dernière pour son retour en Ligue 1, même s'il y a eu une première victoire contre
Strasbourg. On est quand même rassuré là.
Et il me semble d'ailleurs qu'au début de saison l'année dernière, ils étaient quasiment tout le temps menés. Parce que Strasbourg, ils sont menés, ils retournent.
Saint-Etienne, ils sont menés. Contre Lens, ils ouvrent le score avant de perdre le match. Et le match suivant à Brest, ils sont menés aussi assez rapidement.
Donc voilà, on voit que c'est quand même un petit peu dans la manière. Ça ressemble à l'année dernière, la fin de saison dernière.
Oui, c'est mieux.
C'est dans
mieux.
La lignée. C'est et ça, c'est intéressant. Il faut surtout pas que les Lorientais perdent ce fil-là.
Et puis, ça fait 5 points. Il y a eu quand même 3 matchs à l'extérieur aussi sur les 4
ouais, c'est
disputés.
Pas mal.
Il y a eu Monaco, il y a eu Lens. Voilà, il y a quand même eu du monde. Et le Racing Club de Lens, notamment, qui est très difficile à jouer parce que c'est une équipe qui évolue dans un 3-4-3 qu'elle maîtrise à merveille, avec beaucoup d'intensité mise. Un gros combat aussi. Tactique bien sûr, mais également physique. Vous les avez vus, Pierre, dans ce début de saison. C'est difficile à bouger comme équipe.
C'est dur à bouger. C'est une équipe qui lâche jamais, parce que je crois que elle, par contre, elle est quasiment tout le temps menée et elle revient dans ses matchs. Puis il y a des joueurs. C'est une équipe qui se connaît parce qu'elle a pas énormément bougé par rapport à l'année dernière. Franck Hez a un plan très précis avec un schéma très précis et des joueurs qui la subliment. Je pense à Fofana qui a marqué
son troisième but
de la saison. Et à chaque fois, je crois qu'il marque le but égalisateur.
C'est vrai.
Dans ces matchs-là, c'est quelqu'un qui amène un plus. Et puis, évidemment, le public change tout à Lens. Il y a eu un super match Lens-Saint-Etienne où il y avait eu deux partout d'ailleurs à Bollaert. Et on sent que ça les sublime. Il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux, qui rôde au-dessus d'eux et qui fait que. Ouais, en plus. Mais
on sent
vraiment qu'il y a une force autour de ce club qui est revenu en Ligue 1, qui a mis du temps à revenir en Ligue 1. Et même, je pourrais dire, qui a mis du temps à redevenir compétitif en Ligue 1. Parce qu'ils avaient fait un an en 14-15 et ils avaient été quasiment derniers toute l'année. Ça fait du bien de voir Lens revenir à ce niveau-là, et ça fait encore plus de bien de voir Lorient prendre un point à Lens parce que c'est dur vraiment de bouger cette équipe.
Et pour prendre ce point, eh bien, il a fallu mettre en place aussi une organisation tactique du côté de Lorient, une animation pour bloquer cette équipe lensoise, pour l'empêcher d'imposer son intensité, pour l'empêcher aussi d'étouffer le FC Lorient comme aime le faire le Racing Club de Lens. Et écoutez, quelle était la recette de Christophe Pélissier?
Non, c'est parce qu'en fait, on avait observé que, oui, Lens défendait souvent sur une ligne de 3. Et on voulait, dans un premier temps, mettre le surnombre sur notre ligne défensive avec la position de nos milieux au terrain. Et dès qu'on a créé le surnombre, après, il fallait éviter les 1 contre 1. Ce que je disais contre Lens, ils ont de telles forces athlétiques qu'il faut éviter les 1 contre 1. Donc il fallait se positionner dans des zones où on avait un temps d'avance. C'est ce qu'on avait, travaillé cette semaine. Et je trouve que, et notamment à l'intérieur du jeu, ça a été très très bien fait parce que ça nous permettait ce temps d'avance d'après utiliser la vitesse à la fois de nos attaquants et aussi de nos pistons sur les côtés.
Et oui, et tout ça a remarquablement fonctionné parce que on craignait à l'intensité qu'allaient mettre les 100 et or dans ce match et de voir une équipe de Lorient reculer et beaucoup subir comme la semaine précédente à Montpellier. Ça a été le cas un peu en début de rencontre et puis très vite, Lorient a réussi à reprendre ses esprits et le tout avec cette immuable défense à 3. Il y avait pourtant l'absence de Morel blessé, Mouyokolo blessé, Mendes suspendu.
C'est pas fréquent en Ligue 1 une défense à 3.
Non, il y en a pas énormément encore.
Si durablement en fait, parce que là ça fait de très longs mois. Hein.
Ah bah là c'est depuis.
C'est pas Dijon.
Depuis le match contre Dijon, le match qui avait fait basculer Lorient dans
la bonne partie du championnat. Ouais.
Et donc c'est depuis le fin janvier. Donc cette équipe de Lorient évolue comme ça et pourtant malgré les absents. Et on se disait peut-être que Christophe Pélissier va vouloir repasser à 4. Et non, il s'est dit je vais rester à 5 et je vais insérer Léo Petro dans cette défense. Un joueur qui était sur le banc à Montpellier, qui a joué son premier match en Ligue 1 hier. Il a 24 ans, donc c'est pas un tout jeune non plus. Mais il évoluait en National 2 à Andrézieux l'année dernière. Il a été recruté d'ailleurs pour jouer avec la réserve de Lorient. Le voilà propulsé en Ligue 1. Et écoutez pourquoi Christophe Pélissier a choisi de rester avec ce système.
En fait, comme on avait raté le match le week-end dernier, je voulais faire comprendre à mes joueurs que c'était pas à cause du système qu'on avait perdu le match, c'est parce que ce qu'on avait mis à l'intérieur du match. Donc si j'avais changé ou autre, on aurait pu faire croire à ça. Non, je les ai remis dans la même disposition. J'ai dit maintenant, par contre, c'est la prestation que vous devez faire qui doit être bien meilleure. Et je crois que ce soir, ils ont répondu largement à mes attentes.
Et avec un bon point à l'arrivée, on revient à nouveau sur ce Lens-Lorient d'ici quelques instants, juste après la pub.
Découvrez ou redécouvrez toutes les grandes chansons de Bourvil.
Je lui fais, elle me fait.
Nous vieillirons ensemble.
À quel bonheur, d'être un vrai convoyeur. Tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein.
Oh, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Allez.
Il est des mots tendres qu'elle aime entendre. Tendre Lola.
La tec-tec-tec-tec-tic du gendarme.
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
on ne le pourrait pas.
Les 50 plus grands succès de Bourvil sont disponibles dans un coffret double CD à la boutique Radio Bonheur pour seulement 19 €, frais de port offerts. Commandez par téléphone au 02 96 63 00 63. Allez, 19h presque 48 minutes, on est ensemble jusqu'à 20h30 pour le magazine des déchaînés du football et on continue de parler du Football Club de Lorient.
Et oui, et notamment de Léo Pétro, c'était sa première hier en Ligue 1 et il n'a pas dénoté, loin de là, il a tenu son rang aux côtés de Laporte et Fontaine en défense centrale. Léo Pétro, floqué du numéro 36, sans son nom dans le dos parce qu'il n'a pas ce statut professionnel. Et écoutez-le, il était satisfait lui aussi de sa première, de découvrir ce championnat de Ligue 1.
C'est sûr que la Ligue 1, ça va beaucoup plus vite. Il faut faire le moins d'erreurs possible. Ça court beaucoup plus et beaucoup plus d'intensité, notamment quand on vient ici dans un stade avec beaucoup de public qui pousse leur équipe. Donc c'est sûr qu'il y a un gros écart entre le National 2 et la Ligue 1. Mais l'important aujourd'hui, c'était de s'accrocher, de faire les efforts ensemble. Je pense qu'on les a fait. Et dans l'ensemble, je pense qu'on ramène un bon point ici. Voilà, je pense qu'on a réussi à être costaud et à faire ce qu'on voulait, notamment dans l'état d'esprit. Après, bien sûr, rien n'est parfait. Il y a toujours des choses à gommer, des choses à améliorer. Mais dans l'ensemble, comme je vous ai dit, on ramène un bon point d'ici et tous ensemble.
Ah oui, tous ensemble, ils ont été chercher ce point à Lens, le cinquième de la saison, pour une équipe qui elle a gardé aussi une sacrée ossature de joueurs. Il y a eu quelques départs, Andrew Gravillon, Trevo Chalobah qui étaient prêtés sont repartis. Johan Wissa évidemment a quitté le club pour Brentford en première ligue. Il a d'ailleurs marqué en Coupe de la Ligue la semaine dernière avec le club anglais, son premier but outre-Manche. Et le FC Lorient qui poursuit lui aussi son mercato, puisqu'il l'avait annoncé hier en conférence de presse, Christophe Pélissier. Il avait en tout cas confirmé que Moritz Jens, défenseur allemand de 22 ans qui évoluait à Lausanne Sport en Suisse, allait signer aujourd'hui à Lorient. C'est désormais fait, il a signé pour 5 ans du côté du Morbihan, ce jeune défenseur allemand, 1m90, défenseur central. Il va donc venir aussi pallier les blessures qu'il peut y avoir, notamment celle de Morel, dont on ne connaît pas vraiment la durée d'indisponibilité. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements? Écoutez tout de suite l'entraîneur des Merlus.
Des fois on peut dire ça que c'est un défaut, mais la chance que j'ai, c'est que mon groupe n'a pratiquement pas évolué par rapport à l'année dernière. Donc je rappelle quand même que sur la phase retour l'année dernière, on a fini 5e du championnat. Certes, on a perdu deux éléments très très importants de l'équipe, mais le reste de l'équipe se connaît, travaille ensemble et vit ensemble depuis maintenant 3 ans que je suis au club. Comme je dis, je fais attention à ce que je dis aujourd'hui dimanche, parce que d'ici mardi minuit, j'ai connu ça par le passé aussi. J'espère surtout garder toutes les forces de mon équipe. C'est surtout ce que... Et ça déjà, si on fait ça, ça prouvera qu'on a réussi notre recrutement. Parce que des fois, garder les meilleurs éléments d'une équipe, c'est peut-être mieux qu'un recrutement.
Ne pas perdre les bons éléments, perdre d'éléments.
Ne pas perdre d'autres éléments.
Du côté de Lorient.
Et évidemment, quand on pense départ, on pense à Terem Moffi, parce que c'est la valeur marchande qui a monté ces 6 derniers mois avec ses 14 buts en Ligue 1. Il devrait rester, a priori.
Oui. Faut espérer, en tout cas. Oui.
La porte est quasi refermée à un départ. Là.
Pourtant, on a vu, alors je ne sais pas si c'était fondé ou pas, mais c'était des clubs qui cherchaient des attaquants.
Oui.
L'Atalanta Bergame. Et l'Atlético de Madrid.
C'est vrai.
Il y a eu c'est quand même pas n'importe qui.
Non, c'est pas n'importe qui. Après, l'avantage aussi, c'est que Terem Moffi a très vite dit que lui, il se voyait rester au moins une saison à Lorient. Alors, il lui reste 3 ans de contrat. Mais il a très vite dit que voilà, ça ne le dérangeait absolument pas, au contraire, de rester à Lorient.
On est bien dans le Morbihan.
On est bien dans le Morbihan. Il fait bon vivre, on marque des buts, on prend des points. Et voilà, Terem Moffi s'y est acclimaté à ce Morbihan et à ce FC Lorient qui compte donc 5 points et qui, au classement, on va y venir tout de suite. Pierre est en 6. sixième, septième position.
Septième.
Ah, c'est pas mal.
Ça joue l'Europe.
Voilà, ça joue l'Europe. Bon, évidemment, ça reste très condensé puisqu'il n'y a que 4 matchs, mais c'est un bon début.
Oui, Paris est premier avec 12 points. Le podium est très étonnant. Angers, deuxième avec 10 points. Clermont, troisième, 8 points. Les deux prochains adversaires de Brest.
Invaincu dans son histoire en Ligue 1, Clermont, toujours.
C'est vrai. C'est fou, vrai. Ouais. Nice et Marseille, quatrième et cinquième avec 7 points, mais un match en moins parce qu'à cause de la bagarre, eh bien, on ne sait toujours pas comment ça va finir. Puis il y a des gros à la traîne. Alors, 6e Lens avec 6 points. 7e, il y a un paquet de candidats à la Ligue des Champions avec 5 points. Lyon, Lille, Rennes, Lorient. Et puis derrière, voilà, Montpellier, Nantes. Et puis vers le bas du classement, il y a des équipes qui n'ont toujours pas gagné. Metz, Saint-Etienne, Reims avec 3 points. 18e barragiste, Brest avec 2 points, tout comme Bordeaux. Et 3 ferment la marche avec un seul petit point. Voilà, on voit surtout dans ce début de saison, il y a pas mal de gros qui sont à la traîne, enfin la traîne, qui n'ont pas réussi pleinement leur début de saison. On a vu notamment Lyon et Lille.
Monaco aussi.
Monaco aussi, effectivement, 14e avec 4 points. Monaco, dont l'été a été un petit peu perturbé par les qualifications à la Ligue des Champions, qu'ils ont manqué d'un rien d'ailleurs la semaine dernière. Voilà, Lyon, Lille, Monaco ne sont pas encore installés en haut. Donc c'est ce qui fait que l'on voit Angers et Clermont, notamment deux équipes assez rodées et qui ont très bien débuté leur championnat. On fera le point aller fin septembre après les 4 prochains matchs.
Ouais, c'est ça. On sera quasiment à la 10. On dit souvent qu'il faut une dizaine de matchs pour savoir à peu près où on se dirige.
Ouais, ouais. Bon, fin septembre, quand on arrivera à la moitié des matchs aller, 9-10 rencontres, on aura une vision certainement plus juste du classement et de la santé des clubs à ce moment-là.
Un petit mot du foot amateur. On a plaisir à retrouver le foot amateur cette saison dans le magazine. Alors on espère pendant un moment. Le national, ça devrait tenir. N2, N3, on verra, on va en parler. Et on parle d'abord de Saint-Brieuc, Gaëtan, que vous avez suivi de très près ce week-end.
Oui, le Stade briochin qui s'est imposé 2-1 face au Red Star. Saint-Brieuc qui a marqué ses deux premiers buts de la saison, qui a gagné donc son premier match de la saison. 2 buts sur pénalty, d'ailleurs, un doublé de Steven Papin. Le Red Star avait entre-temps égalisé par Damien Durand. Une victoire qui permet à Saint-Brieuc de sortir de la zone rouge, de se rassurer aussi un petit peu. Et un premier match pour les briochins sans concéder de carton rouge. Parce que sur les 3 premiers, il y avait eu 3 expulsions.
Bon, quand vous avez Benjamin Angois dans votre équipe, vous savez que ça peut arriver.
Oui, et puis des lourdes suspensions. 7 matchs pour Benjamin Angois, 3 pour Morgan Jean-Pierre et on ne sait pas exactement encore pour Julien Benaïm. On continue avec le National 2 et le National 3 juste après la pub.
On en parle. L'édito.
Certains consommateurs sont dubitatifs face aux engagements éco-responsables des marques. On entend souvent dire que le recyclage est peu ou mal réalisé. Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, on parle de Tefal, qui a créé sa propre filière de recyclage avec de multiples acteurs, chacun spécialiste dans son domaine. Pour commencer, Tefal procède à la collecte de casseroles, faitout ou poêles usagées en magasin. Les matériaux sont démantelés et l'aluminium est transformé pour fabriquer de nouveaux ustensiles dans l'usine Tefal en Haute-Savoie. Ainsi, une poêle Tefal en aluminium 100% recyclé, c'est 60% d'impact CO2 en moins en sortie d'usine par rapport à une poêle standard. On peut donc vraiment dire que Tefal est une marque engagée dans l'économie circulaire.
On en parle. Jusqu'au 26 septembre chez Carrefour, en échange de votre ancien moule à gâteau, poêle ou casserole, bénéficiez d'un bon de réduction de 50% à valoir sur la gamme ressources de Tefal fabriquée en France. Modalité disponible sur carrefour.fr.
Chez Cuisine Plus, on ne fait rien comme les autres. Et on le fait toute l'année. Avec Electrio, Cuisine Plus vous offre 3 électros pour 1 euro de plus. Toute l'année. Cuisine Plus, sortez des standards. À partir de 4500 euros d'achat de meubles jusqu'au 31 décembre 2021. Voir sélection et conditions en magasin et sur cuisineplus.fr.
Leclerc. Ouh, je vois un paquet de bonnes résolutions dans ton chariot là.
Si tu parles du pack de 16 yaourts Activia saveur citron à 4,07€, oui, je compense mes petits écarts budgétaires de l'été et avec 34% de tickets Leclerc, c'est la bonne affaire.
T'as surtout pas besoin d'attendre un an pour recommencer à te faire plaisir.
C'est sûr, c'est pas mon genre.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 31 août au 11 septembre, soit 2,04€ le kilo, origine France. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Un impact sur votre pare-brise ? Chez Carglass, on fait tout pour le réparer. La preuve, un impact plus petit qu'une pièce de 2 euros et qui n'est pas dans votre champ de vision, on le répare. Un impact pas trop proche du bord de votre pare-brise, on le répare. On fait le diagnostic et en 30 minutes, votre impact, on le répare. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Pour ça, faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous maintenant sur carglass.fr. C'est offert jusqu'au 11 septembre.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Et vous n'avez pas oublié de réserver votre femme ou homme de ménage pour la rentrée ? Inspirez, respirez. O2 est là.
Sur votre route des vacances, ralentir c'est bien plus de chance de pouvoir aller tout au bout du chemin, de réagir en cas d'urgence et de profiter de la vie demain.
Pour que vos vacances restent une belle histoire, n'oubliez pas, rouler trop vite augmente le danger. Alors, levons le pied. Sécurité routière, vivre ensemble.
Les déchaînés du football, le magazine des déchaînés du football en direct. On va peut-être continuer finalement de parler du championnat national.
Oui, parce qu'on a des réactions du stade Briochamp, on l'avait presque oublié entre les pubs, et notamment celle de l'entraîneur Didier Santini, évidemment heureux de sa première victoire sur le banc Briochamp. Écoutez l'analyse du coach des Griffons, ce sera dans un instant évidemment. Santini qui est arrivé, on le rappelle, cet été hein, en provenance de Béziers, lui qui a également connu le national avec Dunkerque il y a quelques saisons, et qui a gagné son premier match avec le stade Briochamp vendredi d'histoire face au Red Star.
C'était peut-être le match le plus dur au niveau des occasions contre nous, mais je pense qu'on a bien tenu. C'était difficile contre une belle équipe qui est vraiment puissante, complète. Après, il faut dire que c'est le match qui nous a le plus embêté défensivement et dans le jeu, surtout en deuxième mi-temps. Mais bon, il y avait pas mal de changements, il y a de belles choses. On est arrivé à créer des choses, on est encore timide, mais on s'améliore. On voit que les joueurs qui rentrent ont fait du bien. Et on est arrivé à mettre un tout petit peu, on est arrivé à mettre de la folie, voilà. C'est ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, je pense, sur un premier mi-temps, sur deux ou trois frappes, sur voilà, il faut tenter des choses, sur le premier pénalty, sur le second, l'action, c'est ce qu'on leur demande. Les 10-15 premières minutes, dès qu'on récupérait un ballon, on avait pas mal de déchets, parce qu'on voulait très vite retrouver par rapport à leur système de jeu dans les intervalles, et on a eu du mal. Et puis au fur et à mesure, on est arrivé à se caler, à trouver du jeu. Je vous dirais que les autres matchs, j'étais moins crispé. Par rapport à comment on défendait, comment on nous attaquait, là c'était chaud par moment quoi.
Oui, c'était chaud par moment, mais ça a tenu du côté du stade Briochamp, et notamment donc grâce aux deux buts de Steven Papin, le meilleur buteur et unique buteur briochin pour l'instant cette saison. Écoutez sa réaction, il était content de la solidarité affichée.
Ouais, on a fait une très très bonne première mi-temps. Je pense qu'on aurait peut-être pu en mettre deux ou trois en première mi-temps, on avait plus d'occasions. Après, deuxième mi-temps, le Red Star a poussé pour justement revenir à l'égalisation, ce qui est normal. On a subi, mais on a vu un groupe très solidaire, beaucoup de guerriers sur le terrain. Donc à partir de là, et puis avec Max aussi qui nous sort pas mal de face à face ou des choses comme ça. Donc du coup, chacun a fait son boulot, on va dire. Bon, la deuxième mi-temps, on a beaucoup subi. Si on regarde toute la deuxième mi-temps, ils ont pas mal d'occasions. On a peut-être eu un peu plus de mal à garder les ballons devant. Mais après c'est comme ça, c'est psychologique en général. Quand on gagne, après on essaye de peut-être un peu moins d'attaquer, de garder ce score. Et eux psychologiquement ils sont obligés de venir égaliser, donc ils poussent, ce qui est normal.
Ouais, bon, au bout du compte quand même les Briochins ont pris les trois points indispensables qui leur manquaient cette saison pour débuter ce championnat enfin dans de bonnes conditions.
Ouais,
4
ouais.
points au compteur, c'est ça,
4 pour points pour les Briochins. Au compteur pour le stade Briochin qui sort donc de la zone rouge. Et puis du côté de Concarneau, là tout va bien, toujours invaincu les Concarneau.
Ouais, match nul.
Match nul à Villefranche, un partout grâce à un but d'Amine Boutra qui a égalisé. Concarneau et ex aequo avec le leader Bourg-en-Bresse Perona avec 8 points et toujours invaincu dans ce championnat de National.
Après les infos, nous parlerons de National 2 et National 3 et bien sûr de l'En Avant Guingamp. Vous écoutez Radio Bonheur, il est 20h et presque 2 minutes. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Un don d'envergure pour essayer de permettre à l'Afrique de rattraper son retard vaccinal. Alors que le continent n'affiche que 2% de vaccinés, l'Élysée a annoncé l'envoi de 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer sur les 3 prochains mois. Ce partenariat entre Paris et l'UA prévoit que ces doses seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins et du mécanisme pour un accès mondial aux vaccins. Deux initiatives destinées à permettre à l'Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés. Les avocats de la partie civile sont arrivés ce lundi dans l'après-midi à Issancourt et Rumel dans les Ardennes pour une nouvelle semaine de fouilles pour rechercher le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée en 2003 du tueur en série Michel Fourniret. Ces fouilles, les 7e dans les Ardennes depuis juin 2020, théâtre d'une bonne partie du parcours criminel de Michel Fourniret, doivent durer une semaine et se faire en partie en présence de Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur mort en mai dernier. Et 200 en plus. En début d'après-midi, ce lundi, la mission patrimoine présidée par Stéphane Bern a dévoilé les nouveaux sites bénéficiant des subsides de la 4e édition du loto du patrimoine qui démarre côté jeu à gratter ce lundi. Ils viennent s'ajouter aux 18 emblématiques déjà retenues en avril dernier, ceux qui bénéficient d'un financement complet et figurent en photo sur les tickets. Les tirages du jeu 6 cette année se dérouleront, eux, les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre. À l'étranger, le groupe djihadiste État islamique au Khorasan a revendiqué l'attaque aux roquettes lancées contre l'aéroport de Kaboul ce lundi, alors que les États-Unis se précipitaient pour achever leur retrait d'Afghanistan. Les soldats du califat ont ciblé l'aéroport international de Kaboul avec 6 roquettes. C'est ce qu'a donc déclaré le groupe dans un communiqué. Un responsable des talibans sur les lieux a indiqué que 5 roquettes avaient été tirées et qu'elles avaient été interceptées par le système de défense antimissile de l'aéroport. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Tour du magazine des déchaînés du football, 20h05, on est ensemble jusqu'à 20h30, on parle National 2, National 3, et puis on va parler évidemment de la seconde division avec l'En Avant Guingamp.
Oui. Et on va commencer par le National 3 dans les championnats amateurs qui nous restent avec le carton de week-end qui est pour la GSI Pontivy dans le groupe breton. La GSI qui a largement dominé Lannion 4-0, but de Jacquemin, Kitenge, Eke et Le Quinf. À noter que l'ancien briochin arrivé cet été, Damien Boisvilliers, avait été expulsé à la 59e du côté lannionnais. Parmi les autres résultats, match nul de Plouzané à Guipry-Messac, 2 buts partout, alors que Plouzané menait 2-0 au bout d'un quart d'heure. La TRN a battu Locminé 1-0. 0-0 entre Fougères et Dinan-Léon. Même score entre la Saint-Pierre de Mélisac et le stade Pontivien. Victoire de l'équipe réserve de Rennes à Tréguin 3-0. Et puis la réserve du Stade Brestois, qui est désormais entraîné par l'idole du SB29, Bruno Grougy, s'est imposé 3-1 contre la réserve de Saint-Brieuc, avec un but d'Escartin et un doublé de Camblanc, qui était sur le banc de l'équipe professionnelle contre le PSG il y a une semaine. Il a marqué 2 buts contre le Stade Briochin. Voilà pour le résultat de contre la réserve. Oui,
entraîné
oui.
par la légende Guillaume Aladou, me semble-t-il.
Oui, et président, alors... légende multicasquette d'ailleurs des Griffons. Voilà pour le résultat du N3. On passe maintenant au National 2.
Oui, la 4ème division avec l'équipe bretonne qui démarre le mieux son championnat. C'est Vannes qui a bien démarré aussi son match à Romorantin. Victoire 2-1. Il y avait 2-0 au bout de 12 minutes pour les Vannetais avec Persico et Dory. L'aumônier a réduit l'écart, mais ça n'a pas été suffisant pour Romorantin. Dans un derby, match nul entre Plabennec et la réserve de Lorient. But de Lebas pour Lorient à la 63e. Égalisation de Pellen dans le temps additionnel sur penalty. Ça va mal pour Vitré, hein, qui a du mal. Vitré qui a été repêché une extrémiste oui. dans ce championnat de National 2. Défaite 1-0. C'est la 4ème défaite en 4 matchs pour les Vitréens. Et décidément, le championnat de National 2 ne réussit pas aux joueurs d'Ille-et-Vilaine, puisque Saint-Malo aussi a perdu pour la 4ème fois en 4 matchs dans ce championnat. C'était à domicile à Marville contre la réserve de Guingamp. Victoire d'en avant 2-0 avec 2 buts en 2 minutes. Louvambo, 73e sur penalty, et de Lenormand à la 75e. Au classement, nous avons deux équipes à 9 points, Saint-Privé, Saint-Hilaire et Blois. Ensuite, un peloton d'équipes avec 8 points, Poissy, Versailles, Vannes et Lorient B. Juste derrière, 7e, Guingamp B avec 7 points. Et on descend tout en bas pour retrouver 3 équipes bretonnes, malheureusement en 3 dernières places. 14e, Plabennec, 1 point. 15e, Saint-Malo, 0. Et Vitré, 16e avec 0 point. 1 but pour Saint-Malo, 0 pour Vitré. Ça démarre difficilement, notamment pour Saint-Malo qui a encore beaucoup, beaucoup changé son effectif. Une quinzaine, allez, je crois que c'est 13 arrivés, 12 départs. C'est peut-être pas exactement ça, mais ça a encore énormément bougé dans ce nouveau projet. Malouin. Ça a bougé aussi à Guingamp durant le mercato, durant la trêve, avec évidemment l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Vous le savez, hein, puisqu'on joue depuis 5 matchs maintenant. 6 déjà. On ne se voit pas vieillir.
Plus que 32.
Plus que 32 déjà. Dans ce championnat, on en parle donc pour une première fois dans le magazine cette année. On revient sur le match de samedi. C'était à domicile contre Ajaccio. Voici le résumé en musique des meilleures actions de cette rencontre. Pour le coup franc 10 mètres devant le rond central, du coup à 15-20 mètres de la surface de réparation, c'est parti, tête de courte, Basilio, superbe arrêt d'Enzo Basilio. Avec un centre vers Courtet, la remise pour Barreto en bonne position, frappe, l'arrêt de Basilio, magnifique. Cette première période, les occasions sont ajacciennes. Hein. Le corner ajaccien devant le but. Oh, ils se sont gênés, but. Oh, ils se sont gênés, Gomissé et Basilio. Et le but est signé, Oumar Gonzalez. Mais bon, ça serait bien de marquer avant le dernier quart d'heure pour pouvoir s'offrir la possibilité d'emballer, d'enflammer la fin de rencontre et d'aller le gagner. Sur le côté de la surface, et on est trois sur le même côté, mais on bouge pas là. Gomis, Billingham, Changama, bas sur le côté encore. Changama pour bas, peut-être encore bas qui est passé dans la surface. Et la Djiba qui frappe et qui va. Voilà la première action aboutie de Guingamp dans cette rencontre. C'est finalement venu techniquement la première action dans le jeu qui va dans la surface. La première occasion, et c'est la Djiba qui a permis à Guingamp, avec un dépassement de fonction, de briser ce mur ajaccien. 70e minute, Guingamp égalise à partout et premier but sous le maillot de Guingamp, Della Djiba. Mais allez, Mchangama pour Gomis. Allez, un ballon à donner sur Franzi Pierrot. Allez, pour la frapper. Bande du 2, frappe de Pierrot. Et voilà, la carreau.
On y va. Allez.
Ah, vous êtes plus dans le confort, les petits Corses là-bas. Hein, vous avez pu mettre 50 ans avant d'effectuer vos touches. Tient son souffle, donc on reprend sa respiration, il faut de la lucidité.
Pierrot, il va déménager tout seul.
Corner pour Youssouf Mchangama, le pied droit magique de Mchangama. Camara, Fethon sont là. Oh, le ballon qui reste dans la surface, Fethon qui redresse. Oh, sur la ligne. Sur la ligne, c'est pas fini.
Corner.
Ça sera corner.
Oh,
le ballon lobé de Fethon, une frappe très
très étonnante qui allait dans le petit filet opposé et qui est sauvée.
Allez, faites un faute replacé, il ne faut pas rester sur ça, allez.
Ouais, c'est terminé. Deuxième période plus plaisante que la première, mais vous entendez les applaudissements de Roudourou pour venir saluer bien la troupe de Dumont qui nous a offert des émotions, qui nous a offert une égalisation, qui aurait pu également souffrir la victoire en fin de match. Mais on a vu beaucoup, beaucoup plus de choses en seconde période. C'est prometteur, il n'y a toujours pas de victoire face à ces blocs bas, mais ce Guingamp-là a définitivement quelque chose.
Alors, c'est pas du hurra football. Hein. Enfin, c'est pas du.
Bah, surtout qu'on a vu surtout un bon Guingamp dans les 20 dernières minutes.
Oui.
Il aura fallu quand même attendre 70 minutes quasiment le but pour libérer un peu ces Guingampais. Ça n'a pas été facile quand même globalement cette rencontre.
Mais c'est vrai que ça s'est ouvert après l'égalisation pour Guingamp, mais il y a quand même eu un autre visage dès le début de la seconde période, plus de tranchant, de mordant dans cette formation. Et Gaëtan, vous qui avez vu, je crois, tous les matchs de Guingamp depuis le début de saison. On sent quand même, c'était d'ailleurs le chantier de base de Stéphane Dumont, il nous l'avait dit dans une interview d'avant-saison sur la page Facebook des Déchaînés du football, le chantier de base, le premier, c'est l'état d'esprit. Et oui. Quand on voit ce début de saison, de ce point de vue-là, il n'y a rien à reprocher à cette équipe.
Oui, parce que c'est souvent ce qui a été reproché justement l'année dernière, l'état d'esprit d'une équipe qui ne donnait pas l'impression d'être concerné, qui ne donnait pas l'impression d'être impliqué. Et là, par contre, bon, certes, tout n'est pas encore rose, hein, tout ne va pas fonctionner comme sur des roulettes du jour au lendemain, évidemment. Mais on sent une équipe qui est bien dans l'état d'esprit, comme vous le disiez, qui est vraiment concernée, qui est là, qui a envie de bien faire. Ça ne marche pas toujours comme ils le souhaiteraient, mais ils n'abandonnent pas. Ils sont vraiment dans les matchs. D'ailleurs, ça se voit contre Valenciennes, ils reviennent dans le temps additionnel quasiment. Contre Ajaccio, là, ils recollent aussi. À Auxerre, ils se sont vraiment serrés les coudes assez longtemps aussi pour tenir cette victoire et surtout tenir le but d'avance, parce que quand on voit Auxerre revenir à 2-1 à la 65e par là, on se dit que ça va être difficile peut-être de gagner ce match à Auxerre. Finalement, non, il y a cette solidarité, cet état d'esprit qui est là, qui permet effectivement de gratter des points sur ce début de saison, même s'il n'y a qu'une seule victoire.
Et moi, ça fait longtemps qu'aux commentaires, je ne me suis pas retrouvé à Roudourou avec une équipe de Guingamp menée et en étant quasiment persuadé qu'elle va revenir. Contre Valenciennes, j'avais ce profond sentiment. Contre Ajaccio, j'avais le profond sentiment qu'il pouvait même aller le gagner s'il marquait tôt. Et ça fait au moins 2, 3, 4 ans que j'ai pas eu ce sentiment-là. Peut-être que c'est décuplé aussi par le retour du public qui pousse et qui porte cette équipe. Mais je trouve que cette équipe, elle a quelque chose parce qu'elle n'abandonne pas. Elle fait pas tout bien, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous allez entendre dans quelques instants l'analyse de Stéphane Dumont assez précise sur ce qui n'a pas fonctionné, notamment lors d'une première période absolue insipide. Mais première réaction de ce match avec le buteur El Hadjiba, auteur de sa première réalisation avec Guingamp. Quel était le sentiment? C'est la question toujours un peu bébête qu'on pose dans ce moment-là. Est-ce un point de gagné ou deux points de perdu? Voici sa réponse.
Je pense que c'est un peu des deux. Du point de vue personnel, ça fait plaisir de rejouer avec toutes les blessures que j'ai eues. Et de marquer aussi, ça fait plaisir. Mon premier but à Guingamp. Et d'un point de vue collectif, on va dire qu'on n'est pas réellement satisfait du match nul. Parce qu'on n'a pas abordé le match de la bonne des façons. On va dire commencer à jouer en deuxième mi-temps. Donc on est un peu déçu. Après on est content de ne pas avoir perdu. Parce que c'est important de ne pas perdre. Voilà, un point c'est on va pas cracher dessus aujourd'hui. Mais on est un peu déçu.
Ouais, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, voilà.
C'est ça, mais ce qui est dommage et dans ce genre de match, quand vous êtes à domicile, que vous faites le jeu et que vous avez une équipe en face qui est plutôt basse sur le terrain, il faut ouvrir le score.
Ah oui, bah sinon c'est toujours délicat parce qu'on sait que l'équipe va encore plus défendre, resserrer les lignes.
Et puis gagner du temps, refaire ses lacets à chaque touche.
Et puis plus on
ça, ils aiment bien les Corses.
Il n'y a pas que les Corses. Hein. Toutes les équipes qui mènent. D'ailleurs, bon, Ajaccio l'a fait un peu, notamment son gardien. Mais c'est pas une spécificité des Corses. Hein. Même Guingamp l'a fait
beaucoup plus hier avec Lorient, par exemple, à Lens.
Ouais.
Mais
on va pas leur jeter la pierre.
C'est difficile à domicile quand c'est comme ça. Surtout que Guingamp a montré dans ce début de saison que l'animation offensive elle est encore en construction, que c'est c'est ce qui prend le plus de temps hein, en général à vraiment être performant. Et évidemment, contre Ajaccio, qui avait joué en plus en milieu de semaine contre Caen, qui avait besoin aussi de non pas de se rassurer, mais physiquement peut-être aller pêcher un petit peu, ça a l'air forcément resserrer les lignes. Ils l'ont fait, mais Guingamp, c'est vrai, a réussi à mettre ce petit pep supplémentaire pour... Oui. Pour marquer, même si effectivement les occasions ont mis du temps à venir. Ouais.
Ouais, Pantaloni l'a dit, hein, l'entraîneur d'Ajaccio, qui disait que d'ailleurs que le match nul n'était pas volé pour les Guingampais, mais effectivement il y a une baisse physique assez nette de ces joueurs en fin de rencontre. Mais bon, ça fait partie d'une histoire d'une saison aussi, et il faut savoir en profiter. C'est ce que Guingamp a fait en égalisant en fin de rencontre. Mais il y a eu donc cette première période à zéro tir. J'ai regardé l'année dernière.
C'était assez cata.
Oui, il y avait eu un match au Havre où Guingamp avait tiré une seule fois en première période, zéro cadré. Ouais. Mais là, zéro tir tout court. C'était assez délicat pour les Guingampais. Voici l'explication, en tout cas l'analyse de Stéphane Dumont sur cette première période. Vous allez entendre, il n'était pas du tout content de la prestation.
Il faut être en capacité de faire mieux avec le ballon, tout simplement. Voilà, notre chantier, il est que dès qu'on a peu d'espace, face à des blocs très compacts, face à une très belle équipe, voilà, bien organisée, agressive, on a vu qu'on n'était pas en capacité à les contourner, à trouver des points de fixation, à faire en sorte de pouvoir essayer de combiner pour aller chercher plus de largeur. On a pour l'instant une équipe qui doit grandir dans le fait d'accepter que ça soit dur. On a senti de suite au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, que c'était compliqué de créer, de se procurer des choses, par manque de justesse, par manque de plein de choses. Et du coup, l'équipe s'enferme là-dedans et n'arrive pas à trouver la ressource mentale. Il faut toujours la piquer. Et du coup, la deuxième mi-temps ressemble à ce qu'on doit donner.
Ouais, un Guingamp à deux visages.
Oui, ça a été aussi le cas un petit peu contre Valenciennes hein, il y a quelques temps, lorsque Guingamp avait été pataugé un peu face à cette défense.
Ça avait été quand même moins net. Je trouve que là, la première mi-temps a vraiment été... Il y a eu une cassure...
Rupture nette.
Ouais, avec cette première mi-temps qui était à oublier complètement. Et c'est vrai que quand j'ai vu le match, je me suis dit, waouh, c'est la deuxième et la même que la première. Ça va être dur. Et ça avait pas été, il n'y avait pas eu un contraste aussi fort, ouais, je trouve, vrai. Contre Valenciennes, ça avait été un peu plus linéaire.
Avec une analyse sur ces deux mi-temps d'Ela Djiba, on lui a notamment posé la question, quels ont été les réglages à la mi-temps pour que ce soit mieux au retour des vestiaires.
On était un peu bas et on n'allait pas bien les chercher. Donc à un moment donné, il fallait aller les chercher en un contre un. Ce qu'on n'a pas réussi à faire en première mi-temps, c'est pour ça qu'on était toujours en retard, je pense. Et qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'on a réussi à mieux le faire. Donc ça a permis de faire un peu paniquer les défenseurs ajacciens. Donc de relancer plus de ballons et donc pour nous de récupérer plus de ballons. Et aussi de se projeter quand on avait la balle un peu plus pour essayer de faire plus mal à l'adversaire. Parce qu'au début, on jouait, quand on récupérait le ballon, on les laissait se replacer. Alors qu'en deuxième mi-temps, quand on récupérait le ballon, on essayait de les mettre en difficulté directement. Et je pense que ça a payé sur la deuxième mi-temps.
Ouais, c'est ce qui a été très bien vu par Ladislas Douniama en première période. Alors, vous le voyez, vous l'aviez vu peut-être à la Comcam, il faisait des grands gestes pour dire à toute l'équipe de remonter parce qu'on voyait une défense assez basse et des attaquants très hauts. Et du coup, il y avait, comme en face, il y avait une équipe regroupée, il n'y avait pas de lien dans cette équipe. Et voilà, ça manquait un peu de tout. Il y a eu plus de tout en seconde période.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, on en a parlé après le match, Pierre, de cette première mi-temps notamment. Et je trouvais que Youssouf Mchangama ne faisait pas ce rôle-là justement de
c'est à lui de le faire,
ce rôle
plus.
De numéro 10, c'est à lui de le faire, ce lien entre le milieu, enfin les milieux de terrain et les attaquants. On le voyait beaucoup dézoné. Alors ceci dit, ça a fonctionné en deuxième mi-temps parce que
sur le but il est à droite,
il est à droite et il dézone. Et par exemple à Auxerre, il est à droite aussi quand il fait sa passe décisive pour Faiton. Mais parfois je trouve que ce fait d'être très libre dessert aussi l'équipe par moment. Alors malgré tout, il est à 3 passes décisives, un but, c'est le Guingampais le plus décisif indéniablement depuis le début de la saison.
Impliqué
dans tous les buts. Mais c'est vrai que sur cette première mi-temps, on aurait aimé le voir peut-être plus impliqué dans ce relais entre le milieu et l'attaque.
Ça reste des réglages effectivement à faire pour l'équipe de Stéphane Dumont, l'entraîneur Guingampais qui s'exprime maintenant sur la seconde période qui a été beaucoup plus positive.
La seconde mi-temps, elle est positive. On doit s'en servir. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience des choses. On est lucide, et je suis depuis le début, je vous le répète à chaque fois, il y a un chantier sur le plan offensif. Mais quand je parle sur l'animation offensive, c'est encore une fois, ça ne se résume pas qu'aux attaquants. Être en capacité à faire le bon décalage, à faire ce qu'on peut faire en deux touches au lieu d'en mettre quatre. Le jeu long diagonale, être en capacité à le mettre sur la poitrine du partenaire, de faire gagner du temps à l'autre, va nous permettre à la finalité, dans les 30 derniers mètres, d'avoir un temps d'avance sur l'autre. C'est mathématique, c'est du football. Et tout ça, il faut qu'on fasse mieux. Oui, c'est une note positive parce qu'on revient et que si on a un peu plus de chance, ou même d'abnégation, ou un peu plus de temps même, on est en capacité peut-être à gagner ce match. Mais dans l'ensemble, voilà, la première mi-temps, on se tire une balle dans le pied sur la première.
Allez, on reparle de cette rencontre avec notamment Ela Djiba qui nous racontera sa joie de marquer et surtout de retrouver les terrains. Ça sera juste après une page de pause.
Votre nouveau canapé Poltron et Sofa est prêt. Prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Avec une remise de plus de 50% sur les nouveaux modèles de la collection. En plus, jusqu'à samedi, découvrez la collection rentrée à partir de 489€ seulement. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique. Vérifiez conditions en magasin.
Incroyable, Poignas fête toute l'année ses 50 ans. Et moi, j'adore les anniversaires et surtout les cadeaux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Alors en ce moment, il y a une voiture à gagner et 50 trottinettes électriques. À votre place, je ne les laisserai pas filer. Alors pas de stress, il y a Poignas.
Valable jusqu'au 25 septembre. Détails sur poignas.fr.
Les enfants, c'est prêt. Merguez ou chipo?
Mais papa, sérieux? Il y en a marre des saucisses au petit-déj.
Pas facile d'oublier les vacances, hein? Profitez des ventes flash de rentrée Amazon jusqu'à moins 40%. Vous avez bien entendu, jusqu'à moins 40%, mais jusqu'au 6 septembre seulement.
Mon général?
Affirmatif.
Je voulais vous dire un truc, là. Moi, le lit étroit, le réveil à 6h et le footing avant le petit-déj, merci, mais non merci, hein. C'est un peu trop engageant pour moi, là. Je rentre chez moi.
Oh, si tout pouvait être aussi facile qu'avec O2. O2 invente le service à domicile sans engagement. Un an, un mois, une semaine, un week-end ou même une journée. Avec O2, c'est sans engagement. Garde d'enfants, ménage, repassage, soutien scolaire, aide aux personnes âgées, jardinage, bricolage. O2 s'occupe de tout.
Inspirez, respirez. O2 est là.
Cette année, Prime Video diffuse la Ligue 1 Uber Eats. Restez au cœur de l'action en suivant vos matchs préférés. La Ligue 1 Uber Eats, en direct sur Prime Video.
Allez, la dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football, parce qu'il est 20h24, les déchaînés du football, jusqu'à 20h30.
Oui, avec donc un retour sur ce match nul, un but partout entre Guingamp et Ajaccio, avec ce but donc inscrit par Ela Djiba, son tout premier avec Guingamp, cette projection dans la surface de réparation qui a mené un surnombre, c'est ce qu'il fallait pour égaliser face à cette équipe d'Ajaccio. Ela Djiba, on l'a lancé sur son but et lui, il préférait retenir quelque chose encore au-dessus de son but, c'est son retour sur les terrains, lui qui est très trop blessé dans sa carrière, écoutez-le.
Ah, merci. Bon, en fait, c'est le coach qui m'a demandé de me projeter plus en deuxième. Et chose que j'ai faite sur la première occasion que j'ai faite, et ça s'est rentré dedans. Donc tant mieux. Tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. Mais oui, c'était une belle action. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire aussi qu'on peut le faire. Et c'est bien pour la suite. Je l'attendais quand même, ouais, un peu. Parce que ça fait un moment, mais c'est surtout de rejouer que j'attendais vraiment, au-delà du but. Après, vous m'avez connu, vous êtes là depuis que je suis arrivé, donc vous avez vu toutes les blessures, tous les pépins, toutes les rechutes que j'ai eues. Donc par rapport à ça, c'est ça qui me trottait vraiment à l'esprit. Après que j'ai marqué, c'est en plus, on va dire, c'est un bonus. Et je suis content d'avoir rejoué, d'avoir pu rejouer et de me sentir bien.
Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football. Voilà pour nos trois principaux clubs, hein, pour Lorient, pour un Brest, mot... pour Lorient et pour Guingamp. Un mot sur le mercato et peut-être.
Oui, parce qu'on vient d'avoir une sorte de confirmation par nos amis du West France qui citent notamment Frédéric Legrand, le président. Visiblement, il n'y aurait pas de départ à Guingamp. On sait que Mathias Fetton et Yannick Gomis étaient en pole position pour partir. Visiblement, ça ne va pas bouger. Fetton était sur les petits papiers de Nantes, mais visiblement, Nantes s'est rétracté ou s'est porté sur un autre joueur. Ouais. Yannick Gomis avait des touches en Turquie qui n'ont pas forcément abouti non plus. À voir maintenant si un joueur peut arriver. Stéphane Dumont nous parlait d'un attaquant, d'un joueur capable de prendre la profondeur, d'amener de la vitesse. Pas sûr non plus que ça se passe, cher Gaëtan.
Non, le nom de Charles Labie est sorti, l'attaquant de Saint-Etienne, qui est un tout jeune attaquant, hein, qui a été formé à Saint-Etienne. Le Télégramme a annoncé qu'il pourrait être prêté à Guingamp, mais ce serait sous la condition d'un départ d'un autre joueur. Et donc, si on croit les mots de Fred Legrand qu'on vient de voir, qui dit qu'il n'y aura pas de départ, eh bien, on ne voit pas non plus l'arrivée de Charles Labie se concrétiser dans les dernières heures du mercato. Donc, bon.
Le prochain match de Guingamp ne sera pas facile. Alors le week-end prochain, pas de foot, c'est la trêve, hein, trêve internationale.
Il y a un match amical à Brest pour Guingamp, mais ça sera à huis clos.
Alors le prochain match de Guingamp, ça sera le samedi 11. Donc dans presque deux semaines, samedi 11, match l'après-midi. Hein, on ne jouera pas à 19h exceptionnellement, mais à 15h. Match au Paris Football Club, une équipe en forme dans ce début de championnat. Là, on va se mesurer sans doute encore à un niveau supérieur.
Comme l'était Auxerre aussi la semaine dernière, hein, sont deux équipes plus ou moins du même niveau qui devraient viser la montée cette saison. Ça va être un beau défi pour l'équipe de Dumont qui a du mal à gagner, c'est vrai, mais qui est aussi difficile à battre. On s'en est rendu compte.
Une seule défaite.
Dans ce début de championnat de Ligue 2. Un petit mot des filles qui étaient au Paris FC ce week-end. On espère que ça ne sera pas le même score pour nos amis masculins parce que les filles ont malheureusement perdu 4-1. Elles sont revenues hein, partout en cours de match, mais défaite face à un des cadors hein, quand même du championnat. Alors c'est pas PSG ni Lyon, mais c'est juste en dessous,
Voilà.
Le Paris FC pour cette première journée de championnat de D1 féminine. Un dernier petit mot de Mercato. Alors on en parlera évidemment demain dans la rubrique, mais on parlait tout à l'heure de Romain Febvre à l'AC Milan. Visiblement, le deal ne se fera pas. Donc bon courage à Romain Febvre lorsqu'il reviendra à l'entraînement avec Derzakarian.
Ah bon, mais finalement il ne part pas.
Visiblement,
on vient de le voir là aussi, et visiblement il ne partirait pas au Milan AC. Il partirait peut-être même pas tout court.
Ah oui.
Ça reste à confirmer quand même. Mais
bon, après, voilà, il y a ce qui s'appelle des discussions. Je pense que Febvre peut aussi avoir l'humilité de s'excuser, peut-être, pour ce qu'il a fait.
Il faut espérer. Il faut
dégonfler ce problème. Il y aura sanction, en tout cas. Ça a été annoncé par Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, et c'est normal. Maintenant, à voir aussi quel Romain Febvre Brest récupérera.
Ah oui.
Parce que ça peut laisser des traces, malheureusement, dans une saison. Je me souviens, par exemple, à Guingamp, un Salibur qui n'était plus du tout le même avant ou après un transfert à Nice avorté. Donc, c'est quelque chose qui peut
faire attention
aux joueurs de mettre ça de côté, de se réimpliquer totalement, de se faire adopter de nouveau par un public qui a peut-être été un peu échaudé par cet épisode. Ça va être un feuilleton peut-être à suivre cette saison.
Exactement.
Bon, prochain rendez-vous avec les déchaînés du football, avec la quotidienne, la rubrique, hein, demain matin 8h35, rediffusion à 17h35. Et puis, on attend dans les prochains jours les résultats de ce mercato, parce qu'il y aura certainement encore des mouvements qu'on ne connaît pas qui vont intervenir dans les 24 ou 48 prochaines heures. En tout cas, ça se terminera le 31 août à minuit.
Gaëtan Pinel s'engage prêt avec option d'achat à Ploumagoire.
Ça, c'est pas possible. J'ai pas encore été contacté, ça va être chaud.
Faut voir avec son agent.
Merci messieurs, bonne soirée.
Bonsoir.
À demain.